Bonjour, Régis Coulanges. Je suis conseiller national d'Amnesty International pour la région PACA et je vous propose une émission sur les droits humains et l'action d'Amnesty pour le respect de ces droits. Cette émission s'appelle « Pour la dignité ». Tous les derniers lundis de chaque mois, de 16h30 à 17h30 sur Fréquence Mistral 99.3.
Sur Fréquence Mistral 99.3. Et bonjour Régis.
Bonjour Odile, bonjour à tous. Voilà, alors c'est la dernière émission pour cette année scolaire, on va dire. Et je vous propose donc aujourd'hui de parler d'abord de ce qu'on va faire mercredi 28 juin, la fête de la solidarité. Et on l'a écrit fête, F-A-I-T-E-S.
Et oui, parce qu'il faut la faire.
Voilà, la solidarité est à faire. Ensuite, je vous présenterai un témoignage exceptionnel de Etam al-Aswad, qui est un jeune réfugié syrien et qui est venu le week-end dernier à l'Assemblée générale d'Amnesty International France à Paris, nous porter son témoignage très émouvant et très intéressant sur ce qu'il a vécu, puisqu'il était très jeune quand la révolution syrienne a commencé, et elle a commencé dans sa ville de Dera. Donc vous écouterez ce témoignage intégralement, parce que je pense qu'il est très intéressant. Ensuite, on parlera d'une opération qu'on peut faire, c'est écrire et envoyer votre raison pour accueillir des réfugiés. Donc ça peut se faire sur Internet, sur le site d'Amnesty. Ensuite, on parlera toujours des problèmes des réfugiés, puisque c'est un des problèmes essentiels du monde actuellement, et de l'Europe, complice de la Libye. Je vous expliquerai pourquoi. Ensuite, on parlera du Soudan du Sud, d'une action pour libérer le président d'Amnesty International turc, qui est en prison depuis le 6 juin. Et ensuite, du rapport d'Amnesty International 2015-2016 que j'ai reçu, là. Je vous en avais déjà un peu parlé, mais je vais vous en reparler puisque je l'ai. Voilà. Donc, et puis, on mettra un peu des chansons de Vigneault, de Gilles Vigneault. Voilà, parce que j'ai un nouveau disque et j'aime bien. Et puis, on n'entend pas beaucoup, donc ça fera peut-être plaisir à ceux qui l'aiment. Voilà, donc mercredi 28 juin, c'est-à-dire dans 2 jours, à partir de 18h30 à Digne-les-Bains, ce sera la fête de la solidarité qui est organisée par RESF, Réseau Éducation Sans Frontières, et la Ligue des Droits de l'Homme. Alors voilà le programme. Donc l'idée, c'est de faire une fête, de passer un moment de partage et d'amitié, avec notamment ce qu'ils appellent le village solidaire, c'est-à-dire toutes les associations qui, tout au long de l'année, viennent en aide, sont solidaires des autres, des plus pauvres, des réfugiés, voilà, des gens qui n'ont pas leurs droits respectés. Donc dans ce village solidaire, vous retrouverez le Secours populaire, le Secours catholique, BADR, Amnesty International, Mélipona, Ludi Runner, À Fleur de Pierre, Bien Vivre Ensemble, Sève 04, Solidarité Afrique Alpes du Sud, France-Palestine Solidarité, Artisans du Monde. Alors, ça commencera à 18h30 par des musiques diverses. Donc, tous les concerts sont gratuits, hein, venez nombreux. C'est sur la place Générale de Gaulle. Donc début 18h30 avec donc des musiques diverses, et puis à 20h un concert de Zoumaï. Et voilà, on nous demande d'apporter vos spécialités culinaires que nous dégusterons tous ensemble. Voilà, puis en même temps ils nous ont fait aussi un appel que je retransmets, un appel aux dons, parce que depuis des années ils consacrent leurs efforts, surtout RESF et la Ligue des droits de l'homme, au soutien et à l'aide et à la régularisation des familles demandeuses d'asile. Cela passe aussi par une aide financière car pour être régularisé, chaque adulte doit verser à la préfecture les frais de dossier et de visa. C'est une somme importante, variable selon la situation et les pays d'origine, qui est en moyenne de 600 euros par adulte. Ils ne peuvent pas assumer seuls cette dépense, donc nous leur proposons des prêts, bien entendu sans intérêt et remboursables selon leurs possibilités. Depuis 2014, nous avons ainsi prêté 6 889 euros à 18 personnes et nous avons été remboursés à ce jour de 2 100 euros. Chaque famille a à cœur de nous rendre cet argent. Ils ont compris qu'en rendant l'argent, cela permet de soutenir d'autres demandes d'asile pour d'autres familles. Donc ils ont actuellement 1 200 euros sur le compte de l'association et des familles qui ne vont pas tarder à avoir besoin de cet argent. Cet argent, votre argent, si vous allez faire un don, servira de nouveaux prêts. C'est essentiel pour ces familles. Il pourra servir aussi à financer des demandes urgentes et impérieuses, les soins médicaux, paiement d'assurance, etc. Donc vous pouvez faire un chèque bancaire à l'ordre de Solidarité, au pluriel, interculturelle 04, que vous pouvez envoyer à Solidarité interculturelle au 6 boulevard Saint-Jean-Chrysostome, 04000 Digne, les Bains, ou le remettre le jour de la fête de la solidarité, le 28 juin, place Général de Gaulle, entre 18h30 et 22h. Voilà, donc ces dons ne sont pas déductibles des impôts, hein, mais c'est un geste de solidarité. Donc je vous rappelle, vous pouvez faire un chèque bancaire à l'ordre de Solidarité Interculturelle 04 et le ramener le jour de la fête, le 28 juin, ou l'envoyer à Solidarité Interculturelle 04 au 6 boulevard Saint-Jean-Chrysostome 04000 Digne. Voilà donc pour cette fête, venez nombreux, ce sera très festif. Voilà, alors maintenant on va
Je voulais demander, oui. Juste, je ne sais pas pourquoi j'ai cette info, Amnesty Cinétoile organise un ciné-débat le 26, c'est aujourd'hui.
Alors c'est
autour du film Un Paese di Calabria.
Voilà, c'était prévu et puis finalement le cinéma m'a contacté et comme c'est la fête de du cinéma, ils ont trouvé que ça faisait un peu trop.
D'accord.
Et donc on a décidé de le reporter en septembre.
D'accord.
Voilà, c'est pour ça que j'en ai pas reparlé. Donc en effet, tu fais bien d'en parler. Donc il y aura pas ce ciné-débat en juin, ça sera reporté en septembre. Mais c'est un film qui nous tient à cœur et on essaiera de le passer en présence de la réalisatrice. Voilà, on va donc maintenant écouter un petit peu Gilles Vigneault, Tu chantais.
Tu chantais de ces continues qui s'envolent, des bancs de la petite école, et c'était un ruisseau qui se faufilait dans la mousse, joyeux comme un enfant qui pousse son cerceau. Et c'était le vent dans les feuilles du tremble, des bruits d'enfants qui rient ensemble d'un secret. Moi, j'étais à la moindre de tes paroles, de retour sur mon banc d'école, tu chantais. Les beaux jours fureux d'amour et d'eau fraîche, passait-elle à la façon des flèches, sans retour. Tes chansons m'ont donné le goût d'en faire une, simple comme le clair de lune, sans façon. Tes couplets mon nommé la mère et la femme, l'amour du jeu, la mort et l'âme, c'est complet. Mais la nuit, quand l'araignée tisse sa toile, une pierre atteint une étoile dans le puits. Tu chantais.
Voilà, alors maintenant je vous propose un témoignage exceptionnel de Etam al-Aswad, qui est un jeune réfugié syrien qui est né le 20 août 1996 à Dera. Alors Dera, c'est ici que la guerre a commencé, dans cette bourgade poussiéreuse de 80 000 habitants qui est située à l'extrême sud du pays, près de la frontière jordanienne. En ce mois de février 2011, alors que les printemps arabes font souffler un vent de liberté sur le Proche-Orient, une poignée d'adolescents s'amusent à taguer les murs d'une école de Dera. Rien de bien méchant, juste quelques slogans hostiles à Bachar al-Assad, dont celui-ci, « Ton tour arrive, docteur ». Voilà l'introduction. Je vous donc te demande d'écouter ce témoignage qui a été enregistré lors de l'Assemblée générale d'Amnesty International France, où il était invité et il a témoigné devant 600 membres d'Amnesty. Voilà.
Je viens de Dera, tout au sud de la Syrie, la ville qui a déclenché la révolution syrienne. Et donc j'aimerais témoigner pour raconter ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu avec mes propres yeux. Et pour cela, je vais commencer par l'éducation, parce que c'est un sujet qui m'est important. Et pour cela, je propose qu'on essaye de comparer le lycée en France et en Syrie, parce que j'ai vécu les deux. Bon, de première vue, mathématiques, physique, on n'a pas trop de différence, c'est plus ou moins la même chose. Mais si on prend une matière qu'on a en Syrie qui s'appelle études civiques, c'est une matière où on a un livre rempli avec des photos de Bachar al-Assad, de Hafez al-Assad, avec des citations qu'on doit apprendre par cœur, avec les atouts apportés par le régime syrien, et on affronte ça en France à la philosophie, à la matière de philosophie en terminale. On a des cours sur la liberté, sur les valeurs de l'homme, sur la culture. Vous voyez là, on développe un esprit critique et on Syrie la propagande, le culte de sa personne. Mais de plus que cet aspect de voir le lycée comme une prison mentale, même vous pouvez prendre l'histoire. On a des choses à prendre par cœur, des dates, alors qu'ici, on a des documents analysés, on a à réfléchir. Donc, cet aspect de prison, de voir le lycée comme une prison mentale, se manifeste aussi corporellement, c'est-à-dire matériellement. Tous les matins en Syrie, on doit arriver dès 6 ans, c'est-à-dire école primaire, collège et lycée, on doit se mettre en rang dans la cour et commencer à répéter des slogans du parti unique, Al-Baas, en levant la main comme ça, en la mettant sur l'épaule de celui qui est devant nous, en disant « Wahda Hurriya, Ishtirakiya », bref, des choses politiques, même pour des enfants de 6 ans. C'est pour cela que je dis que ce régime est intelligent, je pense, dans le mal, c'est-à-dire comme Hitler est intelligent. Puisqu'il a su attaquer l'éducation, il a su qu'en attaquant l'éducation, on pourra faire un lavage de cerveau et on pourra faire des habitants, des citoyens de la Syrie, des moutons dans la ferme de la famille Al-Assad. Ce qui ne se manifeste pas, bien sûr que dans l'éducation est à l'état. Mais dans la rue, si vous allez en tant que touriste même, vous verrez tous les 50 mètres des photos de la famille Alaska. Même dans chaque classe en série, dans chaque bâtiment de gouvernement, dans chaque salon, il y a trois photos. Une photo du parti unique al-Ba'ath, du symbole, une photo de Bachar al-Assad et de Hafez al-Assad. Et moi aussi, en fait, j'étais convaincu par cette idée. C'est-à-dire même, j'étais convaincu que dans le terrain de foot dans lequel je jouais, j'avais ce terrain de foot grâce au président Bachar al-Assad. J'étais convaincu que quand l'équipe de la Syrie de football gagnait un match, eh bien, comme je voyais des photos de Bachar al-Assad, c'était grâce à Bachar al-Assad. Alors, je doute que les Français disaient que c'était grâce à Jacques Chirac que la France a gagné la Coupe du Monde en 90. Et c'est cette idée-là qu'on vit que dans ça, on n'a que ceci devant nous, donc on devient comme ça. Personnellement, j'ai eu de la chance d'avoir un père opposant au régime syrien, qui m'a donné une autre vision, qui m'a vu aller à un défilé pour le régime syrien, puisqu'on chantait et c'était fun, donc j'aimais y aller. Et il m'a raconté l'histoire de son ami qui est entré en prison à 17 ans, puisqu'il a dit un mot qui ne plaît pas au régime syrien. Il est sorti 20 ans plus tard. Ce sont des raisons pourquoi on a eu une révolution en Syrie. Et pourquoi on a eu une révolution. Une première manifestation le 18 mars 2011 à Dera, dans ma ville. Mais quelle est la raison directe? En février 2011, il y avait des enfants qui ont écrit sur le mur de leur école « C'est ton tour, Bachar ». Des enfants qui ont de 13-14 ans, qui ont vu la télé, qui ont vu le printemps arabe, qui ont été influencés. Et leur punition était de les arrêter, de les torturer. Et quand je dis torturer, c'est enlever les ongles, c'est les électriser. Les parents de ces enfants sont allés voir le chef des polices à Dera, Najib Mahfouz, et il a répondu mot par mot, oubliez vos enfants et allez en faire d'autres, et si vous ne savez pas en faire, amenez vos femmes et on le fera à votre place. Voici la raison directe pourquoi, le 18 mars, il y a eu une manifestation à Dera. C'était une manifestation qui demandait simplement la liberté de ses enfants. Aussi, la liberté de quelques prisonniers politiques. La chute du maire de Dera. Et la réponse à cette manifestation était que j'ai vu avec mes yeux des hélicoptères qui ont passé au-dessus de mon immeuble, qui ont atterri dans le stade de Dera, et des policiers, qui apparemment sont venus de Damas, ont couru des kilomètres jusqu'au lieu de la manifestation pour ouvrir le feu sur les manifestants et pour tuer deux personnes et blesser plusieurs. On entend aujourd'hui deux personnes, c'est pas un nombre énorme. Mais à cette époque-là, à ce jour-là, c'était choquant. Deux personnes, vous le savez, c'est plus qu'un nombre. C'était des enfants qui ont passé la nuit à pleurer. C'était des femmes qui n'avaient plus leur mari. Et pourquoi? Dera était choquée. Tout le monde voulait se manifester contre cette violence qui n'est sans raison. Mais tout le monde avait peur de cette violence aussi. Au final, le lendemain, les manifestants se sont trouvés 10 fois plus nombreux. Et plus le sang coulait, plus les manifestants étaient nombreux dans les rues. Je vais vous raconter une série de ce que le régime a commis. Et je suis désolé auparavant, puisque cette série de ce que le régime a commis est affreuse. Le 24-3, c'est-à-dire une semaine après le début de la révolution, un médecin qui s'appelle Ali Rassab Mohamed. Il était à l'hôpital de Dera. L'hôpital a pris des ordres qu'aucun ambulance quitte l'hôpital. Et il y avait un massacre dans une place qui s'appelle Place Al-Umam. Ce médecin, avec son infirmier, il a pris la responsabilité, il a pris une ambulance et il est allé pour soigner les blessés. Il se fait arrêter sur le pont de Dera et tué. C'est le premier médecin tué en Syrie, avec son infirmier. Le 24-3, c'était quelques jours après le début de la révolution, excusez-moi. Le 25 avril, Dera était assiégé, un mois après le début de la révolution. Pourquoi ? Parce qu'on se manifestait pacifiquement, et j'insiste, il n'y avait pas encore d'armes dans la révolution. Les habitants du village entourant Dera ont amené du lait, du pain, ils ont marché à pied des kilomètres, tout en portant des branches d'olivier pour signaler que la manifestation est pacifique. On ne vient que pour nourrir les enfants de Dera. Et bien à nouveau, l'armée les laisse entrer à Dera. Il les enferme et il ouvre le feu. Ce jour-là, plus que 40 personnes sont mortes. J'ai vu la scène après ce massacre. Dans la rue, il n'y avait que les chaussures de ces gens qui essayaient de fuir, du lait et du pain par terre, tout mélangé avec du sang. J'aimerais aussi vous parler de deux Hamza. Je ne voudrais pas parler de manière générale des prisonniers politiques, puisque Amnesty n'ignore pas du tout ce sujet. Mais je veux vous parler de deux cas particuliers. De Hamza. Le premier Hamza, c'est mon cousin, qui n'a jamais porté d'armes, qui est pacifique, qui a été pris de sa maison devant sa mère, et torturé de toutes les manières les plus affreuses. Une manière, c'était de le pendre et laisser ses pieds, l'extrémité de ses pieds toucher une chaise. Il était tout nu et électrisé en même temps, dans toutes les parties de son corps, sans aucune exception. Le deuxième Hamza, vous en avez peut-être entendu parler, c'est l'enfant symbole de la révolution. C'est l'enfant qui a été arrêté, il a 13 ans. L'excuse du régime, c'était pourquoi ils ont arrêté cet enfant, c'est parce que cet enfant de 13 ans allait pour violer les femmes des grands officiers de l'armée. Et il a été torturé, il a été tué, et son corps a été délivré à sa famille. Les marques sur son corps, on peut les voir sur une vidéo de YouTube, et celui qui a nettoyé le corps, c'est l'oncle de Hamza, et c'est un ami proche à mon père. Et on voit sur Hamza des marques de... On l'a électrisé. Et même le médecin qui l'a examiné, il a dit qu'ils ont utilisé des perceuses sur le corps de Hamza. Tout cela aussi pour dire que il n'y a pas que des armes chimiques pour tuer et torturer. Le régime syrien a 1000 méthodes autres que les armes chimiques pour faire comme il a fait avec Hamza Khatib. Hamza Khatib était un message pour les Syriens que si vous continuez, voici ce qui vous arrive. Dans ce temps, mon père, depuis le 18 mars, il parlait avec les chaînes internationales pour raconter ce qui se passe en Syrie. Il a été recherché, il s'enfuyait et se cachait d'une maison à l'autre. Et quand Dera a été assiégé, il a dû quitter la Syrie. Quant à nous, on est resté un petit peu plus. À cause de cela, un jour, je suis dans ma voiture avec ma mère, ma grand-mère, mon petit frère et ma tante. On se fait arrêter par une barrière de police, d'armée, et ils prennent ma mère. On ne comprenais pas pourquoi. Mon petit frère était en pleurs. Ma tante et ma grand-mère, elles essayaient de nous calmer, mais ils ont commencé à pleurer aussi. Mais on essaie quand même de suivre la voiture de l'armée. Et ils entrent dans le stade de Dera, qui était à l'époque l'endroit connu pour l'exécution des prisonniers là. Heureusement, ils n'ont fait que menacer ma mère. Ils lui ont dit que si on trouve ton mari, on va le couper avec un couteau. Et c'était l'une des raisons, ils l'ont lâché plus tard, et c'était l'une des raisons pourquoi ma mère a décidé, elle aussi, qu'on quitte la sienne. Alors, elle, un jour, bien après cela, j'apprends le jour même que ce soir, on va quitter la Syrie. Donc, je vais chez ma grand-mère pour dire au revoir à tout le monde, à ma famille. On a tout mis dans des petits sacs. Et j'ai oublié mon parfum. Et je voulais retourner le chercher, j'avais 15 ans. Et ma tante commence à se moquer de moi. Tu vas à Paris, tu vas amener un parfum. Sauf qu'il ne connaît pas les prix des parfums à Paris. Bref, je dis au revoir à ma grand-mère, à ma famille. On prend la voiture, on va vers la frontière, on attend la nuit. Et c'est là que je commence à me rendre compte qu'en fait, je me fais virer de mon propre pays et que demain, je n'aurai pas les moyens, je ne pourrai pas retourner dans mon propre pays. Voici pourquoi je suis devenu un réfugié, je l'ai bachelé. Je vous ai raconté aussi pourquoi mon cousin Hamza, qui a été heureusement lâché aussi, est devenu un réfugié. Et même ma grand-mère, de 85 ans, a dû quitter la Syrie à pied pour aller en Jordanie, pour la simple raison que son fils est un opposant du régime syrien. Ici en France, j'essaye de témoigner, de faire mon mieux pour raconter la vérité, pour ne pas oublier ce que c'est ce régime. Et pour cela, j'ai aussi écrit une bande dessinée avec le journaliste Nicolas Hénin et le dessinateur Kim Park, qui, dans le même esprit, vous raconte mon témoignage. Et je vous en parle puisque il y a un point important là-dessus. Et sur ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est que la majorité des gens qui lisent, des Européens plutôt, des Français qui lisent cette bande dessinée ou qui entendent ma parole, ils sont choqués un peu d'un côté, puisqu'ils n'ont pas entendu le mot terroriste dans ma parole. Alors que c'est ce qu'on entend tout le temps quand on parle de la Syrie. Oui, justement, ça ne devrait pas choquer, puisque pendant les 9 premiers mois, il n'y avait pas d'armes dans les manifestations en Syrie, sauf peut-être des cas très particuliers. En tout cas, les premiers mois, il n'y avait pas du tout d'armes. Et le terrorisme est une conséquence de la violence et de la guerre que le régime syrien a amené en Syrie. C'est une conséquence de la répression et de l'ignorance que le régime syrien a installé en Syrie dans la région depuis plus que 50 ans. Donc, pour moi, si on veut résoudre le problème du terrorisme, il est indispensable de confronter le dictateur Bachar el-Assad et d'autres dictateurs. On ne peut pas traiter un problème et garder l'autre en disant qu'il faut qu'il y ait un gouvernement en Syrie. Oui, un gouvernement, mais pas un tel gouvernement. Et on ne peut pas discuter avec un tel gouvernement, non seulement parce que c'est un gouvernement criminel, mais aussi parce qu'on l'a essayé et ça ne marche pas. Tout ce que le régime syrien dirait, c'est que je ne fais que combattre des terroristes. Pour conclure, je voudrais remercier Amnesty, et je pense là-dessus, je peux parler au nom de beaucoup de Syriens, remercier Amnesty pour ses actions, en particulier pour le rapport sur la prison des Syriens et pour les actions qu'ils mettent en place pour accueillir les réfugiés. Et je vous remercie en particulier, moi je vous remercie pour m'avoir donné la parole ici. Merci.
Voilà, donc on reprend cette émission et on va peut-être revenir donc juste sur la présentation de cette bande dessinée, Régis.
Voilà, donc j'ai rencontré Etam à la suite de son intervention et il m'a dédicacé sa bande dessinée. Hein. Donc elle a été faite avec l'aide de Nicolas Hénin pour le texte et Quingen Park pour le dessin. Elle est parue aux éditions d'Argo. Donc vous la trouvez dans toutes les bonnes librairies. Et voilà, ça raconte un peu, ça raconte son histoire. Donc vous retrouvez des passages de ce qu'il a dit. Hein. Et puis en même temps, vous apprenez aussi d'autres choses. Et vous voyez un petit peu la vie, en fait, dans une dictature non pas molle, mais une dictature dure. Hein, et comment le dictateur et ses sbires font, en fait, régner la terreur. Et comment on appelle quelqu'un qui fait régner la terreur ? Ben on l'appelle un terroriste. Alors, il est bien beau de se dire qu'il lutte contre le terrorisme, mais c'est un terroriste, Bachar al-Assad, puisqu'il fait régner la terreur depuis des années sur son propre peuple. Voilà. Donc, je vous conseille vivement la lecture de ce témoignage en bande dessinée aux éditions d'Argo. Ça s'appelle « Etam, une jeunesse syrienne ». De Nicolas Hénin et Quingen Park. Voilà, c'est une bande dessinée en noir et blanc qui raconte son histoire et puis son intégration en France. Hein. Il est maintenant en troisième année d'enseignement de supérieur de mathématiques. Il suit un peu les traces de son père, puisque son père, non seulement était un opposant politique, est un opposant politique à Bachar, mais c'est aussi un professeur de mathématiques. Voilà, maintenant on va écouter Gilles Vigneault, Vivre debout. C'est ce que fait Etam et tant d'autres réfugiés et Syriens qui sont restés au pays, qui se cachent et qui sont opposants au régime.
Vivre debout pour me survivre, délesté de mes vieux tabous, mais le cœur toujours prêt à suivre le pas pressé du caribou. Vivre, vivre debout, vivre la peur fermée, mais la conscience ouverte sur l'horizon tremblant entre hier et demain. Vivre entre le début et la fin du chemin, les cinq sens au repos, le sixième en alerte. Savoir trois électrons que j'appelle mon âme, jouer au joli jeu de l'immortalité, voir l'avenir, rêver d'être et d'avoir été, voir mon cœur s'entêter, attirer sur les rames. Vivre, vivre debout pour me survivre, délesté de nos vieux tabous, mais le cœur toujours prêt à suivre le pas pressé du caribou. Vivre, vivre debout. J'apprivoise le temps en réduisant l'espace et sans me retourner pour entrevoir le port. Ce passage obligé qui se prend pour la mort m'apparaît lumineux comme l'œil d'un rapace. Vivre debout et prêt à partir à toute heure, boire et dormir debout comme font les chevaux, les pas de liberté inscrits dans leurs sabots, puisqu'il y a toujours péril en la demeure. Vivre, vivre debout pour me survivre, délesté de mes vieux tabous, mais le cœur toujours prêt à suivre le pas pressé du caribou. Vivre, vivre debout. Thank you. pour défendre trois mots que disait mon grand-père, apporté par chez nous autant de Rabelais en forme de rondeau, balade ou triolet, pour que mon petit-fils apprenne au secondaire que c'est en perdant ça que les peuples se meurent, et que c'est acadien de survivre au danger, qu'être chez soi permet d'accueillir l'étranger, mais qu'il y a toujours péril en la demeure. Vivre, vivre debout pour me survivre, délesté de nos vieux tabous, mais le cœur toujours prêt à suivre le pas pressé du caribou. Vivre, vivre debout.
Voilà, vivre debout et dignement. Alors, dans le cadre de notre campagne I Welcome sur l'accueil des réfugiés, nous avons lancé une opération pour un peu contrecarrer les propos de rejet qu'on entend parfois, même souvent, et des fois dans la bouche de certains dirigeants. On a donc lancé une opération « Écrivez et envoyez-nous votre raison pour accueillir des réfugiés ». Donc vous pouvez participer à cela sur le site d'amnesty.fr. Alors voilà quelques exemples de réponses qu'on a eues. Une Michelle B. qui nous dit, qui nous écrit « Je ne voudrais pas vivre dans un pays entouré de murs. » Christian, « Parce que la France doit être exemplaire. » Anne, « Parce que mon père était réfugié espagnol en 1939. » Daniel, « Parce que le vivre ensemble commence par l'accueil de l'autre. » Jocelyne, « Parce que nous nous enrichissons de nos différences. » Jean-Noël, parce que les réfugiés bien accueillis sont nos meilleurs ambassadeurs. Sylvie, parce que nous sommes et devons rester humains. Voilà, il y en a des centaines et des milliers de témoignages comme ça, et ça fait un petit peu chaud au cœur de les lire et de les entendre. Voilà, on continue en parlant toujours de réfugiés. Amnesty vient de publier le 21 juin un communiqué de presse sur l'Europe complice de la Libye. En effet, l'Union européenne continue de coopérer avec la Libye pour empêcher les réfugiés d'arriver en Europe, une coopération à l'origine de véritables drames. L'UE permet aux gardes-côtes libyens de renvoyer les réfugiés et les migrants dans un pays où la détention illégale, la torture et le viol sont monnaie courante. Elle élargit les pouvoirs des gardes-côtes libyens tout en détournant les yeux des graves risques immanquablement liés à une telle coopération. Les interceptions menées par les gardes-côtes libyens violent souvent les normes internationales, notamment ce qui concerne le recours aux armes à feu. En effet, les réfugiés et les migrants interceptés par les autorités libyennes sont ramenés sur les côtes libyennes, d'où ils sont presque toujours envoyés dans des centres de détention pour y être détenus indéfiniment. Ils y sont soumis à la torture, aux coups, aux viols et à l'exploitation par les gardiens. Le fait d'encourager ces gouvernements à intensifier le contrôle des frontières risque d'exposer un nombre croissant de personnes à des abus. Les dirigeants de l'Union européenne devraient plutôt veiller de façon prioritaire à sauver des vies, à offrir des voies sûres et légales aux personnes qui s'enfuient et à améliorer le respect de l'état de droit et la protection des droits humains. Nos 5 demandes aux dirigeants de l'Union européenne. Ouvrir et développer des voies sûres et légales pour les réfugiés et les migrants. Augmenter les capacités des équipes de recherche et de sauvetage en Méditerranée centrale, dans les zones où se produisent la plupart des naufrages, à la mesure du nombre de départs depuis l'Afrique du Nord. Mettre un terme à toutes les coopérations avec les autorités libyennes qui mènent au renvoi de réfugiés et de migrants vers la Libye, où ils risquent d'être soumis à la détention illimitée, à la torture, au viol et à d'autres violations de leurs droits, et de concentrer plutôt ses efforts sur l'amélioration de la situation des droits humains dans le pays. Et enfin, réviser sa politique générale à l'égard des pays tiers en matière de coopération et de migration, afin de garantir une protection adéquate des droits fondamentaux des réfugiés et des migrants. Voilà donc ce communiqué de presse publié le 21 juin par Amnesty International. On va maintenant à nouveau écouter Gilles Vigneault, l'inventaire.
Pour ce peu de temps qu'on fait sur la terre, j'ai cru bon pour moi de faire inventaire de ce long exil. 85 ans de cette planète, c'est le temps qu'il faut à la marionnette pour casser ses fils. Sorti du collège, en homme à tout faire, de cordeur de bois à commis libraire, je me suis nourri. De la pêche en mer à la pêche en Seine, à tous les métiers, 13 à la douzaine, je me suis appris. Dès qu'il est près d'un ruisseau, le nomade est sédentaire. Il faut respecter la terre, il ne peut vivre sans eau. On ne peut vivre sans eau. Comme passager de ce beau navire, il m'est apparu urgent de vous dire l'état du bateau. Sans connaître à fond la marche des astres, je crois qu'il s'en va droit vers un désastre de l'air et de l'eau. Sur ce caillou rond, 7 milliards de têtes, la moitié qui vend, l'autre qui achète la vie et la mort. 2 milliards d'entre eux n'ont pas d'eau potable, n'ont rien dans les pieds, n'ont rien sur la table, bienvenue à bord. Dès qu'il est près d'un ruisseau, le nomade est sédentaire. Il doit respecter la terre, il ne peut vivre sans eau. On ne peut vivre sans eau. À peine 1% voyage en première, avec ses larbins et ses cuisinières et son coffre-fort. Ils ont acheté tous les capitaines, réquisitionné les puits, les fontaines et l'île au trésor. Pendant ce temps-là, dans le vaste monde, un enfant se meurt tous les 10 secondes de soif et de faim. J'apprends qu'on arrache une autre rivière, l'homme est embourbé dans la même ornière qu'en 1920. Dès qu'il est près d'un ruisseau, le nomade est sédentaire. Il doit respecter la terre, il ne peut vivre sans eau. On ne peut vivre sans eau. L'océan, voler les récoltes, les prix vont monter, aussi la révolte, un enfant viendra, qui renversera les rois et les trônes, plus vif qu'un oiseau, plus secret qu'un drone, qui vous surprendra, qui n'aura plus peur de votre police, ni de vos décrets, ni de vos complices, notable ripoux. Il abrogera vos lois les plus bêtes, puis vous le verrez, marchant à la tête d'un peuple debout. Dès qu'il est près d'un ruisseau, le nomade est sédentaire. Il doit respecter la terre, il ne peut vivre sans eau. On ne peut vivre sans eau.
Magnifique texte, Gilles Vigneault encore.
Un chanteur... qui approche des 90 ans, mais qui est resté très, très jeune dans sa tête et qui voit bien tous les problèmes du monde. Voilà, alors je vais vous parler toujours de réfugiés. Mais vous savez qu'on l'a dit souvent à cette antenne, la plupart, le plus grand nombre de réfugiés sont accueillis par des pays proches, par des pays voisins, et qui sont souvent des pays pauvres. C'est le cas notamment de l'Ouganda, qui accueille énormément de Soudanais du Sud. Et c'est assez remarquable, mais bon, il n'est pas assez aidé financièrement par les organisations internationales. Alors, je vais vous donner un exemple d'une jeune femme de 37 ans qui s'appelle Joyce, qui a déjà tout vu. Son expérience lui a montré la cruauté humaine était sans limite, mais elle a survécu et peut aujourd'hui témoigner. En septembre 2016, des militaires ont fait irruption à son domicile, au Soudan du Sud, où elle vivait avec son mari et leurs enfants. Ils ont attaché son mari les bras dans le dos et lui ont asséné des coups de couteau jusqu'à ce que la mort s'ensuive. Se retrouvant seule avec 9 enfants à charge, Joyce a décidé de fuir les violences auxquelles son pays natal était en proie. Elle a donc rejoint les centaines de milliers de Sud-Soudanais qui marchaient sur le chemin de l'exode vers l'Ouganda au sud. Près des deux tiers sont des enfants. Ils vivent dans des conditions déplorables parce que la communauté internationale ne finance pas l'assistance aux réfugiés dans ce pays qui continue pourtant d'en accueillir malgré ses ressources limitées. Les appels lancés par les Nations Unies permettent de lever des fonds encore bien insuffisants pour améliorer le sort de millions de réfugiés et des possibilités de réinstallation offertes sont minimes, ce qui est contraire aux obligations internationales en matière de partage des responsabilités entre États. La communauté internationale se doit de redoubler d'efforts pour aider l'Ouganda et les réfugiés que ce pays a accueillis à bras ouverts et de leur témoigner son soutien. Des vies en dépendent. Plus de 900 000 réfugiés sud-soudanais se trouvent déjà sur le territoire ougandais et des milliers d'autres arrivent chaque jour. L'Ouganda doit faire face à l'une des plus graves crises de ce type au monde. Reconnu et félicité pour sa politique progressiste en faveur des réfugiés, ce pays ne leur a pas fermé ses frontières malgré les difficultés financières, mais il ne peut plus résister à une telle pression et a besoin d'un appui mondial. Sa démarche consiste à offrir aux réfugiés des parcelles de terre où vivre et cultiver et à leur permettre d'accéder à des services essentiels, notamment les soins médicaux et l'éducation, au même titre que les Ougandais. Par ailleurs, les réfugiés sont autorisés à travailler et à créer des entreprises. L'objectif de l'État est de faire en sorte que les réfugiés deviennent autosuffisants en 5 ans et ne soient plus dépendants des organismes d'aide. L'insuffisance des ressources compromet la pérennité de la politique de l'Ouganda en faveur des réfugiés, mais a aussi un effet dévastateur plus direct sur la vie de ces personnes. Voilà donc l'exemple d'un pays, l'Ouganda, qui a une politique envers les réfugiés sud-soudanais qui est assez remarquable, mais qui est très largement insuffisamment aidé par la communauté internationale. Alors maintenant, je vais vous parler d'un prisonnier d'opinion, puisque vous savez que Amnesty a été créé pour la libération des prisonniers d'opinion. Et là, il s'agit d'un cas un peu particulier, puisque c'est le président d'Amnesty International de Turquie, qui est en prison depuis le 6 juin. Il s'appelle Taner Kılıç. Et c'est un défenseur de longue date des droits humains qui a été arrêté avant d'être poursuivi à tort 3 jours plus tard pour, soi-disant, appartenance à l'organisation terroriste Fethullah Gulen. Donc nous devons agir le plus vite possible pour obtenir sa libération immédiate et inconditionnelle. Son arrestation a suscité une large condamnation au sein de la communauté internationale, notamment de la part du département d'État américain, de l'Union européenne, du commissaire allemand aux droits de l'homme et du ministre danois des Affaires étrangères, ainsi que d'organisations nationales et internationales de défense des droits humains. Au secrétariat national d'Amnesty International France, nous sommes actuellement dans une démarche de plaidoyer auprès des plus hautes autorités françaises afin qu'elles demandent la libération de Taner Kılıç à leur homologue turc. Le secrétariat international et d'autres sections d'Amnesty se mobilisent également sur ce sujet. Donc vous pouvez aller sur le site d'amnesty.fr et signer et faire signer autour de vous la pétition qui est adressée au ministre de la Justice turque Bekir Bozdag. Donc n'hésitez pas à la diffuser sur les réseaux sociaux, à la signer, à la faire signer pour la libération du président d'Amnesty International Turquie en prison depuis le 6 juin. Voilà, il a œuvré pour faire libérer les personnes injustement emprisonnées. C'est normal qu'on soit massivement à le soutenir pour avoir sa libération. Alors maintenant, à nouveau Vigneault, on ne s'en lasse pas, l'isoloir.
On donne des conférences et des milliers de concerts en Suisse, en Belgique, en France, de Moncton à Vancouver. On donne des entrevues, on prononce des discours, on donne son point de vue au jardin comme à la cour. Mais pour exercer ma liberté, faut trouver le temps d'aller voter. Dans mon isoloir, j'ai quelques secondes pour changer le monde. Je prends le pouvoir de me faire un nid au cœur de l'histoire et de ma croix noire me faire un pays. On fait 100 000 poèmes en rêvant de te nommer et de se nommer soi-même avec des mots mal fermés. Et sur les bancs de l'école où j'ai gravé mes refrains, on trouve encore ma parole qui promet des lendemains. Mais pour exercer ma liberté, faut trouver le temps d'aller voter. Dans mon isoloir, j'ai quelques secondes pour changer le monde. Je prends le pouvoir de me faire un nid au cœur de l'histoire et de ma croix noire me faire un pays. Dans les prisons du silence, je fais semblant d'oublier la misère et les finances, et que je suis surveillé. J'ai vu que tout s'accélère et que j'ai pris du retard à contenir ma colère et différer mon départ. Mais pour exercer ma liberté, faut trouver le temps d'aller voter. Dans mon isoloir, j'ai quelques secondes pour changer le monde. Je prends le pouvoir de me faire un nid au cœur de l'histoire et de ma croix noire me faire un pays. Dans mon isoloir, j'ai quelques secondes pour changer le monde. Je prends le pouvoir de me faire un nid au cœur de l'histoire et de ma croix noire me faire un pays.
Encore un texte bien, bien copieux, oui, avec toujours des musiques très joyeuses.
Oui, ça fait du bien. Et puis, c'est vrai, l'importance aussi d'aller voter. On voit que, en écoutant le témoignage du jeune Syrien, le droit de vote, c'est quand même important. Hein. Et beaucoup de personnes dans le monde ne l'ont pas. Alors, un petit mot sur le rapport d'Amnesty International 2015-2016. Avant de terminer cette émission, donc c'est un livre qui fait, hélas, 482 pages. Et il rend compte de la situation des droits humains en 2015 et 2016 dans 160 pays et territoires. Dans plusieurs régions du monde, les conflits et la répression ont jeté sur les routes un grand nombre de réfugiés. La torture, les autres formes de mauvais traitements et le non-respect des droits sexuels et reproductifs figuraient parmi les principales sources de préoccupation. Cette année encore, de nombreuses personnes ont été privées de leurs droits du fait de la surveillance exercée par les États et d'une culture de l'impunité. Ce rapport rend aussi hommage aux hommes et aux femmes qui, partout dans le monde, défendent les droits humains dans des conditions souvent difficiles et dangereuses, comme on l'a vu pour le président d'Amnesty Turquie. Il reflète les principaux motifs d'inquiétude d'Amnesty International et invite à l'action. Le rapport 2015-2016 constitue une lecture indispensable pour les décideurs, les militants et toute personne intéressée par la question des droits humains. Vous pourrez le trouver à la médiathèque de Digne-les-Bains parce que nous en offrons toujours un exemplaire chaque année. Et vous verrez, donc, il y a une préface, un avant-propos. Ensuite, un résumé régional concernant l'Afrique, l'Amérique, l'Asie-Pacifique, l'Europe et l'Asie centrale, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Et puis, la situation pays, par ordre alphabétique. Voilà, en commençant par l'Afghanistan et en terminant par le Zimbabwe. Voilà, je vous conseille, si vous êtes intéressé par la situation de tel ou tel pays, d'aller voir ce rapport. Vous pouvez aussi le consulter sur Internet, sur le site d'Amnesty. Voilà, donc on termine cette émission. On reprendra en septembre, je pense. Et donc, d'ici là, passez tous un bel été. N'oubliez pas d'aller régulièrement sur le site pour vous informer de l'actualité des droits humains. Et puis aussi, signer nos pétitions en ligne, c'est très important. Et puis, pourquoi pas, devenez membre d'Amnesty International. Faites grossir ce mouvement pour qu'on soit plus nombreux à se lever contre les injustices. Voilà, ben, on va donc terminer par un nouveau Gilles Vigneault. Partir, peut-être en vacances. Des fois, c'est partir aussi parce qu'on est obligé de partir. Voilà.
On l'écoute. Merci, Régis. Et bon été à toi aussi. Au revoir.
Merci.
Partir en quête de soi-même, avec celle qu'on aime dans les pas d'autrefois. Partir avec l'âme en vacances pour entrer dans la danse de l'eau vive et des bois. Partir comme ceux qui s'évadent, redevenus nomades, repartir avec toi. Partir pour mettre un peu d'espace entre le temps qui passe et le temps d'avec toi. Dormir sur le sable des dunes, dans un lit de fortune et sans peur d'avoir froid. Dormir comme on fait un voyage, sans souci et sans âge, sans contrainte et sans loi. Dormir sous un croissant de lune, dans un repli de dune, un hibou sur le toit. Dormir et quand le jour se lève, se raconter nos rêves et ramasser du bois. Franchir le ruisseau à la course et retrouver la source de nos premiers émois. Cueillir des bleuets et des fraises du côté des mélèzes, il en reste, je crois. Fleurir des cheveux ton corsage et de ces paysages, revenir avec toi. Partir en quête de soi-même, avec celle qu'on aime, dans les pas d'autrefois.